l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Damien Conaré, le secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Donc nous allons parler, Damien, de ce colloque que vous préparez, le 9e colloque, c'est déjà beaucoup, mais rappelez-nous comment s'est fondée la chaire UNESCO à Montpellier.
Bien bonjour, merci de l'invitation. Ben, c'est une chaire qui a été montée en 2011. Donc c'est une chaire d'enseignement et de recherche, donc qui est labellisée par l'UNESCO et au sens de l'UNESCO de la diffusion la plus large possible des savoirs. Donc ça fait vraiment partie de notre activité d'être un peu un lien entre la recherche, qui est très active ici à Montpellier sur les questions d'agriculture et d'alimentation, et puis la société au sens large. Donc tout ça, ça veut dire qu'on organise un certain nombre d'activités, notamment d'enseignement, de formation. Donc on suit à Montpellier Supagro, l'école d'ingénieurs agronomes ici à Montpellier, des enseignements notamment d'un master qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable. On mène, on coordonne, on valorise des projets de recherche autour de l'alimentation urbaine. Et ça nous a amené à travailler sur la métropole de Montpellier, d'accompagner la politique agroécologique et alimentaire qui a été mise en œuvre par la métropole. Et puis enfin d'organiser voilà, un certain nombre d'événements, de colloques, de conférences pour faire dialoguer la science et la société.
Voilà, alors c'est très ouvert, votre colloque s'adresse à vraiment la population de Montpellier ?
Absolument, c'est complètement ouvert, c'est libre, inscription libre, et l'idée c'est voilà, de s'adresser au plus grand nombre.
Alors donc vous avez dit ces différents moyens, parmi lesquels vous avez cité justement ce lien avec la métropole. Alors comment s'exprime-t-il en ce moment ?
Eh ben, en ce moment, il s'exprime notamment à travers des échanges qui sont menés entre des chercheurs et des techniciens de la métropole. Et notamment un projet de recherche qui s'appelle Foodscape. Bon, c'est un anglicisme qui veut dire environnement alimentaire. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs, nutritionnistes, géographes, sociologues qui travaillent à comprendre comment est-ce que notre environnement alimentaire influe sur les pratiques des mangeurs. Donc il y a des liens qui sont faits avec les gens qui s'occupent de la cantine, des gens qui s'occupent des infrastructures, pour mieux comprendre, pour mieux organiser l'alimentation sur le territoire de Montpellier.
Alors justement, où ça en est par rapport aux cantines scolaires ?
Eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont menées pour de plus en plus introduire du bio, du local au sein des régimes. Il y a une grande enquête aussi qui a été faite, qui a été menée donc par des chercheurs, une enquête de pratiques, d'habitudes alimentaires, pour mieux comprendre où est-ce que les Montpelliérains en fait font leurs courses et à quel moment ils le font, pour, là encore, mieux organiser l'offre alimentaire sur le territoire. Donc c'est une enquête qui a été menée tout au long de l'année, et là, les chercheurs, nutritionnistes notamment, sont en train de décrypter les résultats.
Ouais. Ah oui, alors on saura si on va sur les marchés, par exemple.
Exactement, ou s'ils vont plutôt en supermarché, est-ce que les gens font leurs courses après le travail, etc., etc. Et ça permettra de mieux connaître les habitudes alimentaires.
Alors que pensez-vous justement de l'action qui est menée par beaucoup de groupes contre l'implantation des grandes surfaces ?
Ben ça, c'est effectivement important, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la ville s'étend, la ville mange des terres utiles et souvent très riches, puisqu'on sait bien que les villes se sont établies à proximité des terres les plus riches. Donc c'est le cas aussi à Montpellier, avec toute cette plaine littorale. Donc effectivement, c'est un véritable problème, et on peut qu'encourager effectivement toutes ces actions associatives, par exemple je pense à la Ceinture Verte ou bien d'autres, qui mènent des actions contre l'implantation de supermarchés ou de grandes enseignes sur des terres agricoles riches. Et on sait qu'elles sont peu nombreuses dans la région, donc il faut vraiment les préserver, c'est important. Hein.
C'est une des luttes justement encouragées par la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale. Et par rapport justement au progrès encore à faire, que voyez-vous d'important ?
Ben donc, effectivement, sur le maintien des terres agricoles, ça c'est effectivement quelque chose de très important. Sur tout l'approvisionnement pour la restauration collective, donc on en a un peu parlé, mais là, il y a effectivement aussi une grande marge de progression. Il y a d'autres leviers dont la ville dispose, notamment à travers son mine, le marché gare, le marché de gros, où là aussi, il y a des efforts qui sont faits pour installer des entreprises de transformation qui peuvent s'approvisionner directement sur le mine. Voilà, il y a un certain nombre de leviers de progression sur la métropole qui peuvent être actionnés. Ouais.
Oui, ça va être d'ailleurs, je pense, l'objet de discussion au moment de la campagne électorale.
Absolument, absolument. Même si on ne voit pas encore l'alimentation être un grand sujet dans les différentes plateformes, mais pour certains groupes, oui, ça l'est. Ouais. Ouais.
Donc, beaucoup d'implications dans la vie, en fait, quotidienne des Montpelliérains.
Eh bien, en l'occurrence, oui. Ouais, ouais, ouais.
Alors, avec les chercheurs, vous en recevez évidemment du monde entier.
Oui, ouais, ouais. On a des chercheurs du monde entier qu'on a en accueil à peu près une à deux fois par an. On accueille des chercheurs de l'étranger. Et puis après, on est dans des réseaux internationaux de recherche, et ce qui nous permet à la fois de faire des conférences à l'étranger ou d'accueillir des chercheurs étrangers, comme on le fera là pour ce colloque.
Alors, vous êtes une équipe de combien de personnes pour faire tout ce travail?
On est quatre personnes. Quatre personnes.
C'est peu.
C'est assez peu, oui. Ouais.
Alors, vous travaillez donc avec une chargée de communication.
Voilà, on a une personne qui s'occupe de l'administration et des finances. Une autre personne qui est plus sur la valorisation des projets de recherche, coordination et valorisation des projets de recherche. Et puis, le titulaire de la chaire, Nicolas Bricasse, qui est un chercheur au CIRAD.
Alors, vous avez apporté une musique pour nos auditeurs. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, écoutez, c'est un choix assez rapide que j'ai fait ce matin. Mais enfin, pour être sur la thématique nature, ben voilà, je vous propose un morceau de John Coltrane qui s'appelle « Après la pluie », « After the rain ». Je rappelle que je suis avec Damien Conaré, le secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, et que je l'ai invité puisqu'il y a un colloque qui se prépare, le 9e,
Il y en a eu beaucoup avant, déjà.
Et ben voilà, effectivement, parce que la chaire existe depuis 2011, donc on avait tout de suite entamé un colloque inaugural, donc c'est effectivement le 9e.
Alors, le 9e qui se passera le vendredi 7 février a pour thème « Se relier dans la nature, alimentation et biodiversité ».
Voilà, donc là, on aborde le thème de la biodiversité. Et au-delà de la question de la biodiversité, qui représente la diversité à l'échelle des gènes, des espèces, des écosystèmes, et qui représente aussi la question des savoirs traditionnels, de la diversité des savoirs traditionnels, au-delà de cette question de la biodiversité, on voulait vraiment aborder les questions des liens dans la nature et re-questionner la place des humains, des non-humains, et la raison pour laquelle on a appelé ce colloque « Se relier dans la nature et pas à la nature », pour considérer que nous sommes humains, une partie comme une autre de la nature, et que c'est important de se le rappeler et de le rappeler à cette occasion-là.
Alors, on parle beaucoup, évidemment, de l'extinction des espèces. C'est un thème peut-être qui va être soulevé.
Tout à fait, oui. Dès la conférence inaugurale, on aura une conférence inaugurale de Pierre-Henri Gouillon, qui est généticien des populations au Muséum national d'histoire naturelle, et qui va vraiment nous réexpliquer qu'est-ce que c'est que, d'abord, est-ce que les espèces existent vraiment? Est-ce que la notion d'espèce a un sens ou pas? Et est-ce qu'on est effectivement à la veille d'une sixième grande extinction? Ce qu'il discute dans le sens où, selon lui, ben voilà, les espèces ont toujours... déjà, il remet en cause
évolué,
la notion d'espèce,
oui.
Mais voilà, ont toujours évolué, disparu, rené, se sont recréés, etc. Maintenant, effectivement, on peut considérer qu'on est dans une période un peu particulière de changement climatique, mais voilà, il nous expliquera ce qu'il en est à ce niveau-là, oui.
Donc un thème très général qui englobe beaucoup de choses, les rapports au monde du vivant.
Absolument.
Et pour ce faire, vous avez donc beaucoup d'intervenants.
Oui. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir des intervenants d'abord de différents horizons géographiques et puis aussi qui arrivent de différents domaines. Donc il y a des chercheurs de différentes disciplines, mais aussi des gens qui arrivent d'autres...
Voilà, alors vous avez posé le thème d'abord, ouais. Et ensuite vous avez cherché les intervenants qui pouvaient correspondre.
Exactement.
Alors les grands thèmes, donc vous avez parlé de l'extinction des espèces.
Voilà, mais... on parlera aussi de forêt, la forêt, la préservation des forêts, comment à la fois préserver les forêts et en même temps considérer qu'il y a des gens qui vivent dans ces forêts, et donc pour qui la forêt est une nourriture et qui ont toujours interagi avec les forêts. Donc là, on aura un chercheur qui arrive du Cameroun, Chimerdio, qui est spécialiste des forêts, notamment dans le bassin du Congo. On parlera aussi du point de vue de l'industrie agroalimentaire, comment est-ce qu'elle arrive à diversifier l'approvisionnement en matières premières. Donc là, on aura une personne de Léa Nature, qui est une acheteuse pour cette entreprise, acheteuse de matières premières. Donc c'est tout ce qui est tisane, notamment. Et puis, on aura, pour ce qui est de la diversité dans nos assiettes, une chef ghanéenne qui s'appelle Selassie Atadika et qui a une réflexion intéressante qui considère qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, de plus en plus, le riz a pris le pas sur d'autres céréales traditionnelles que sont le sorgho, le fonio ou d'autres. Et évidemment, le riz étant plus facile à préparer, il a pris finalement le pas sur un certain nombre d'autres céréales et elle essaye de revitaliser
les céréales anciennes.
Les céréales anciennes, absolument, ouais, à travers sa cuisine dans son restaurant. Ouais. Donc elle viendra nous en parler. Ouais.
Donc beaucoup de thèmes, bien sûr différents, mais des questions posées. Alors où sont les questions? Je pense moi de toute façon aux forêts parce que. Le temps des forêts, qui est un film qui a été présenté par Greenpeace dans son choix de films proposés au grand public, montre combien il y a un scandale, puisque 84% des forêts ne contiennent qu'une ou deux espèces d'arbres.
Tout à fait.
Et que le gouvernement a décidé d'augmenter de 30% la coupe des forêts. Alors, c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'il faudrait faire.
Absolument. Donc, c'est effectivement ces aspects-là qu'on va entrevoir avec l'idée, justement, sur l'idée de relation. C'est-à-dire l'idée aussi que la nature a été préservée dans ses relations avec les humains. Et qu'il y a des gens qui vivent dans les forêts depuis des décennies, enfin même des millénaires, et qui savent très bien les entretenir. Et que malheureusement, c'est un peu ce lien qu'on perd d'une entente, d'une relation entre humains et non humains dans la nature.
Et ça pose aussi toute la question des peuples autochtones qui vivent des ressources de la forêt.
Qui vivent des ressources de la forêt, qui expriment leur savoir traditionnel, qui s'y soignent, qui s'y nourrissent, effectivement. Ouais. Ouais.
Or là, on sait très bien qu'ils sont tout le temps en butte avec l'avancement de ceux qui exploitent le bois et qui, petit à petit, font diminuer la forêt.
Absolument, ouais. Ouais, entre l'exploitation du bois ou les coupes, tout simplement, ou les feux de forêt.
Pour gagner des terres cultivables.
Ouais, absolument, ouais. Ouais.
Alors, justement, là, il se pose aussi, au point de vue du changement du climat, beaucoup de questions.
Tout à fait, ouais. Là, c'est vrai que c'est assez prégnant. Bah, dans le cas de la forêt, là, on le voit effectivement dans le cas de l'Australie avec tous ces feux qu'on lie beaucoup à la question du changement climatique, de la chaleur. Mais il y a une philosophe, alors qui ne sera pas invitée là à ce colloque-là, mais qui nous explique très bien, Joëlle Zask, qui explique justement que ces forêts soit ont été sanctuarisées dans des zones complètement à préserver, mais sans les humains. Alors que justement, il y avait des relations entre hommes et forêts qui étaient plutôt intelligentes avec une science du feu, où il y avait des feux préventifs qui étaient faits. Donc dans le cas de l'Australie, par exemple, avec les populations aborigènes qui savaient très bien gérer la forêt en faisant des feux pour faire des coupes-feux et préserver justement la forêt de feux totalement ingérables, comme c'est le cas aujourd'hui.
Oui.
Donc elle lit bien le fait que, certes, il y a le changement climatique, mais il y a aussi des populations qui ne sont plus là et qui savaient gérer ces forêts en bonne intelligence.
Eh oui, le fait de l'Australie avec ses grands incendies ingérables pose vraiment un problème à tout le monde.
Ah ouais, tout à fait.
Alors, il y a aussi, on parle beaucoup de la reconquête de la biodiversité avec le réensauvagement. Alors, quel est votre avis là-dessus?
Oui, alors ça, c'est un sujet qui sera effectivement abordé, qui est extrêmement polémique là encore, parce que ça suppose une idée de nature voilà, de laquelle l'homme devrait être exclu, et l'idée qu'on puisse réensauvager et remettre des animaux dans des espaces dans lesquels ils ne sont plus forcément adaptés ou dans lesquels la nature n'est plus forcément capable de les accueillir. Mais ça va faire effectivement partie des sujets. Réensauvagement, et puis aussi la question des animaux domestiques qu'on va aborder avec une éleveuse.
Ah bon?
Émilie Janin, qui est éleveuse de bovins et qui milite pour le retour de l'abattage à la ferme. Elle a une réflexion très intéressante de dire, moi j'élève mes bœufs, je les fais naître, je les soigne, je les nourris, et finalement au moment le plus crucial qui est celui de l'abattage, ben malheureusement on s'en occupe plus et on laisse nos animaux, enfin on envoie nos animaux dans des abattoirs qu'on maîtrise pas du tout, et c'est le moment le plus stressant pour l'animal et pour l'éleveur. Donc elle milite pour un retour de l'abattage dans la ferme, qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus sain à la fois pour l'éleveur et pour l'animal, qui respecte beaucoup mieux la vie de l'animal et qui permet à l'éleveur d'accompagner l'animal jusqu'au bout de sa vie. Ouais.
Mais alors, ça nécessiterait des abatteurs
Tout à fait,
itinérant. Ouais.
Absolument, ben, c'est exactement le cas. C'est un abattoir itinérant dans un camion aménagé et qui va de ferme en ferme. Voilà. Ouais, ouais. C'est un projet qui existait en Suède, au Danemark, et qu'ils essayent là maintenant d'implanter en France. Ouais.
En effet, dans beaucoup de thèmes, peut-être nous en oublions dans tous vos...
Ouais, ouais,
vos intervenants.
On aura aussi un auteur de bande dessinée, Alessandro Pignocchi, qui a écrit des BD fort intéressantes là, sur la cosmologie du futur, sur la recomposition des mondes, et qui fait le lien, notamment, il a beaucoup travaillé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui fait un peu le lien sur les rapports que ces ZADistes ont entretenus avec la nature, et des travaux que lui avait menés du temps où il était encore anthropologue, avec les Indiens Jivaro en Amérique du Sud.
Ah, alors donc, il traduit ça dans des bandes dessinées?
Absolument, absolument. Donc il sera là, il va nous raconter, nous expliquer quelques planches de sa bande dessinée.
Il y aura à la disposition du public ces bandes dessinées?
Absolument, ouais, ouais, parce qu'on est avec Soramps. On est en partenariat avec Soramps, donc du coup il y aura toute une table d'ouvrages qui seront présentés, dont ces bandes dessinées, et les auteurs qui seront présents en signature et dédicace. pour le public.
Je vois aussi parmi les intervenants Valérie Chansigaud de l'Université Paris Diderot du CNRS.
Ouais. Donc Valérie Chansigaud, elle insiste très fortement sur l'idée que toutes les réflexions autour de la protection de la nature doivent pas laisser de côté toutes les réflexions sur le progrès social. Et que, voilà, elle, par exemple, elle indique que l'idée que chacun devrait faire son effort pour protéger la nature, elle considère que tout le monde n'est pas également responsable. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus responsables que d'autres, et donc chacun ne doit pas faire une part égale. Voilà, il y a des entreprises polluantes qui sont bien plus responsables que des individus lambda. Et donc, elle explique à quel point voilà, chacun n'est pas également responsable, chacun ne doit pas faire une part égale, et bien rappeler cette notion de progrès social qu'on ne peut pas oublier protection de la nature et progrès social. Les deux doivent être complètement liés. Sinon, on parle d'une chose...
Et puis pollueur-payeur.
Et absolument, pollueur-payeur, tout à fait.
Et Cécile Claverol de France Nature Environnement.
Voilà, elle viendra nous parler d'agroécologie, d'agrobiodiversité, comment préserver, maintenir, recréer de la biodiversité à travers des pratiques agroécologiques, c'est-à-dire des pratiques agricoles plus respectueuses de la nature.
Vous avez, je crois, fait aussi une intervention sur ce point récemment à Montpellier.
Eh bien oui, on a eu un débat sur la question. Alors plutôt c'était je ne sais pas si vous faites allusion au débat qu'il y a eu à la Carmagnole.
Oui.
Voilà, la semaine dernière, c'était sur la question de nourrir la ville. Donc effectivement, l'agroécologie en faisait partie, oui. On a beaucoup parlé de la métropole de Montpellier.
Et il y a vraiment des espoirs d'arriver à l'agroécologie autour de notre métropole.
En tout cas, il y a un certain nombre de dynamiques autour de ça, avec des espaces tests agricoles pour installer des jeunes maraîchers qui ont des pratiques effectivement alternatives. Il y a un certain nombre de choses qui se font sur le territoire de la métropole en matière d'agroécologie. C'est encore marginal, évidemment, mais ça existe. Ouais.
Alors, nous allons écouter à nouveau la musique que vous avez apportée.
Oui, cette fois-ci, c'est Andy Palacio, un chanteur de Belize. Et donc, c'est intéressant parce qu'il fait partie du peuple Garifuna. C'est un peuple un peu particulier. C'est des Africains qui étaient menés en esclavage et qui ont en fait échoué sur une île et qui ont essaimé du coup en Amérique centrale et qui se sont retrouvés libres. Donc, ils parlent une langue qui est une des seules langues, même la dernière, je crois, dans les Caraïbes, qui est mêlée d'Indiens Caraïbes.
Ah! Alors, pour s'inscrire à ce colloque, quelles sont les modalités?
Écoutez, c'est assez simple. Il faut venir sur le site internet de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. C'est le www.chaireunesco-adm, ADM comme Alimentation du Monde. Donc, www.chaireunesco-adm.com. Et vous verrez, sur la une, il y a le lien vers l'inscription qui est impérative avant le 3 février. Le colloque aura lieu le vendredi 7 février. Mais il faut s'inscrire jusqu'au 3 février inclus.
Donc, c'est ouvert à tout le monde ?
C'est ouvert à tout le monde. Au contraire, c'est vraiment ouvert au grand public qui veut venir s'informer sur ces questions d'alimentation et de biodiversité. Et ça aura lieu de 9h à 16h30. Et il y a un café d'accueil à 8h30, donc vous pouvez venir avant. Ça se passe à Supagro, sur le campus de la Gaillarde. C'est donc l'école historique, l'école d'agriculture, place Pierre Viala, donc le vendredi 7 février.
Et à midi, il y a une pause repas ?
À midi, absolument. Il y a un buffet, qui est offert aux participants.
Alors, je rappelle aussi qu'il y aura un stand de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale, ainsi que du Centre de Documentation Tiers-Monde. Merci Damien.
Merci.
Je passe au calendrier. Donc, dès demain, mardi 28 janvier, de 14h à 16h30, à l'espace Cap de Ville, Salle Pyrénées, à Montpellier, c'est une réunion d'information d'Occitanie Coopération. Appel à projet, aide au co-développement international. Et puis ce même jour, à 18h, à l'espace Martin Luther King, c'est une réunion à l'invitation de l'association France-Palestine Solidarité aux autres associations pour la rejoindre dans la préparation du programme 2020 Bethléem, capitale de la culture arabe 2020. La ville de Montpellier étant jumelée avec Bethléem, il est important, bien sûr, qu'un grand nombre d'associations se réunissent pour préparer cet événement. Je rappelle aussi que vous pouvez voir jusqu'au 14 février, à l'hôtel de ville de Montpellier, l'exposition photographique « Peuples autochtones, ode à la nature » à partir des clichés et écrits de Christian Puech de l'association « Témoins du bout du monde ». Il y a également, mercredi 5 février, à partir de 9h30, au commissariat central 206 rue du Comté de Melgueil, un rassemblement solidarité contre la répression judiciaire pour la liberté d'expression de BDS France Montpellier. C'est le comité BDS France qui vous invite à ce rassemblement. José Luis Moragues étant à nouveau convoqué une nouvelle fois, il a été la cible de 12 PV et de 8 fois auditionné en 2018 pour occupation illégale de l'espace public en tenant un stand BDS, place de la Comédie. Donc, je rappelle ça. Et puis, Espoir pour un enfant vous invite à l'expo-vente de Frontignan qui a lieu du mardi 28 janvier jusqu'au jeudi 30 janvier à la salle ISO face à l'entrée de l'église. Alors le mardi 28 janvier, vous aurez des stands ouverts de 14h à 18h, le mercredi 29 et le jeudi 30 janvier de 8h à 18h, toujours dans la même salle ISO. Vous pouvez y découvrir des objets insolites, des lampes, des tableaux, des bijoux et de l'artisanat du monde. Vous le savez, cette association s'occupe d'enfants qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays et qui viennent à Montpellier accueillis dans des familles pour subir des soins. Il y a donc beaucoup de ressources de cette association qui viennent de ces braderies. Voilà tout le calendrier de cette semaine. À bientôt, chers auditeurs. Merci à Damien Conaré.